Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Mes chers compatriotes, si je me présente devant vous ce soir, c'est poussé non pas par l'ambition, mais par l'urgente nécessité que les circonstances nous imposent. Les circonstances, vous les connaissez, il n'y a plus de candidat à la présidentielle. Les défections successives de François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Jean-Frédéric Poisson, Gérard Larcher et Isabelle Balkany ont été fatales à la droite. À gauche, ce sont les désistements simultanés de Benoît Hamon pour Yannick Jadot et de Yannick Jadot pour Benoît Hamon qui ont scellé leur sort. Jean-Luc Mélenchon, on le sait désormais, n'existe pas, c'est un hologramme. Emmanuel Macron, lui, a été disqualifié au moment de publier sa profession de foi. Il n'en avait pas. Quant à l'épidémie de grippe, elle a été particulièrement violente cette année. La Commission de Bruxelles vient d'ailleurs de prendre une directive. Tous les parlementaires européens devront désormais se faire vacciner. Bref, en toute hypothèse, il ne reste plus la moindre alternative. J'ai donc décidé de présenter ma candidature à la présidentielle. Non, en fait, c'est faux. Cela dit, qui sera encore candidat le 23 avril ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à notre club des idées. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet de consultants Footprint Consultant. Sylvain Bourbeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur à France Culture, la suite dans les idées tous les samedis à 13h30. Et nous a rejoint celui qui suit en particulier la droite au service politique de France Culture. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Juste pour avoir les toutes dernières infos, parce qu'on sait que ça va très très vite en ce moment. Est-ce que François Fillon, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 18h presque 23 minutes, est toujours candidat à la présidentielle ?
À l'heure qu'il est, François Fillon est toujours candidat pour a priori encore quelques heures.
Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir.
Je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017.
Je suis candidat à la présidence de la République française.
Je suis candidate, hein, pour faire entendre, le camp des travailleurs.
Vous n'avez pas pris encore votre décision.
Non, et si je l'avais prise, je vous la dirais.
Annonce quand ?
À la mi-février.
Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes.
À la réunion des réformateurs, les mines sont moroses. Dans le journal Le Monde, une vingtaine de ses membres signent une tribune et affirment se mettre en retrait de la campagne du candidat socialiste.
Cette procédure qui est menée par nos adversaires politiques au sein du Parlement européen. Vous savez, le Parlement européen, c'est une institution politique. Nous sommes l'opposition, nous les gênons beaucoup,
c'est
et nous avons de plus en plus de pouvoir élection après élection. Ils ont dit qu'ils auraient notre peau. Alors nous allons les combattre, nous n'allons pas nous laisser faire.
Je suis actuellement sous le feu continu des attaques. Ces attaques contre un candidat investi et légitimé non seulement par les siens, mais par des millions de Français, sont d'une violence inouïe.
Aujourd'hui, François Fillon est candidat, et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B.
Moi j'ai tiré la sonnette d'alarme, je sais que beaucoup de mes collègues parlementaires sont effondrés, je peux vous dire, sur le terrain c'est pareil, et que si aujourd'hui on ne reprend pas la vraie campagne présidentielle, non pas sur la défense d'un homme ou de sa famille, mais sur un projet, eh bien on sera plus audible.
Dedans. Si on nous avait dit ça il y a quelques semaines, il y a quelques mois, que la campagne présidentielle française prendrait cette tournure, je pense que personne ne l'aurait cru. Ce petit mix, il est signé comme chaque semaine Jean-Christophe Francis. Alors il y a beaucoup de choses qu'on voudrait aborder, mais évidemment, le principal personnage de la séquence politique du moment, c'est François Fillon. Enfin, les personnages, puisqu'il y a aussi son épouse. François Fillon qui demande à ses soutiens, enfin ses soutiens, il faut vraiment les mettre entre guillemets aujourd'hui, de tenir encore 15 jours. Or, quand on s'aperçoit que l'affaire a commencé il y a seulement 10 jours, on se dit que 15 jours, ça va être terriblement long, Sylvain Bourbeau.
Oui, c'est ce qui frappe particulièrement, je trouve, dans cette affaire. C'est la rapidité avec laquelle les choses se déroulent. C'est assez surprenant pour la politique française et pour les médias français. Je suis frappé par la façon de fonctionner des médias dans cette affaire qui ressemble davantage à la manière dont ça se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où les journaux ont tendance à finalement à travailler tous ensemble et à se compléter les uns les autres. On a vu, c'est le Canard Enchaîné qui a sorti l'affaire, mais on a vu d'autres médias ajouter des éléments importants. Hier soir, France Télévisions, France 2.
On a davantage l'impression de voir une compétition qu'une coopération. Oui, mais c'est France 2, on ne peut pas dire que ça soit non plus un énorme scoop.
C'est une coopétition, je dirais, alors que on avait un fonctionnement habituel des médias en France où chaque média a son affaire. Un des problèmes, c'est que les journaux feuilletonnaient sur une affaire, mais n'étaient pas tellement repris par leurs collègues. Mediapart en sait quelque chose, parce que au début, quand l'affaire Bettencourt ou l'affaire Cahuzac est sortie, il a fallu du temps pour que ce soit repris. Et là, les choses sont allées très vite et se sont cristallisées. Alors tout de suite, la remarque a été d'attaquer les médias. Bon, qui font leur travail pour une fois et qui le font, je trouve, très encore plus sérieusement que d'habitude. Alors après, on s'en est pris à la communication de François Fillon. Mais quand on réfléchit bien, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre, probablement, à part « Ok, j'ai fait une erreur, je rembourse les 900 et quelques... » Enfin, on n'était pas à 900 au début, on était à 700. Mais je rembourse, et effectivement, c'est pas bien. J'aurais pas... Mais à part ça, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Est-ce qu'il y avait vraiment une autre stratégie de communication? C'est pas un problème de communication, cette affaire.
La vitesse, elle est effectivement du côté des médias, mais elle est aussi le personnel politique, et en particulier chez les Républicains. On a quand même vu se déliter cette union derrière un candidat particulièrement légitime. 66% des voix à la primaire, avec une participation de 4 millions d'électeurs. On peut pas dire qu'il manquait de légitimité. Il faut rappeler que cette affaire-là, pour l'instant, judiciairement, enfin, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, François Fillon n'a pas été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. La vitesse, elle est aussi dans la réaction de son entourage, ou dans l'absence de réaction pour certains, Philippe Manière.
Oui, mais alors, pour le moment, officiellement, c'est encore le candidat du parti. On voit bien que ce sont de plus en plus de faux-semblants, hein, mais c'est encore officiellement la posture du parti. Je crois que c'est de peu d'importance pour deux raisons. La première, c'est que, effectivement, pour son électorat, le traumatisme est considérable et irréversible. Je pense irréversible. Parce que tout simplement la droite pensait avoir enfin trouvé le candidat idéal. Le candidat idéal qui était à la fois intègre, ce qui nous change de beaucoup d'autres, hein. Il y avait vraiment cette idée que Fillon, il n'était pas comme les autres. Lui, on n'allait pas le prendre les mains dans le pot de confiture. Donc ça,
en tout cas, il avait construit son discours là-dessus.
Oui, mais c'est pas seulement qu'il avait construit son discours là-dessus, c'est qu'il avait l'air crédible et que beaucoup de gens à droite ont en particulier voté pour lui pour cette raison. Quand on regarde dans les sondages, d'ailleurs, quels sont les critères qui font que vous préférez Fillon qu'un autre, vous avez l'intégrité qui arrive en premier, et je crois 78%. C'est très considérable. Donc il est atteint dans quelque chose qui était un des éléments qui faisait qu'on votait pour lui. Donc ça, c'est très important. Donc les gens sont très déçus parce que à droite, parce que d'une part, ils pensaient avoir le candidat idéal du point de vue de l'intégrité, et d'autre part, ils avaient l'impression qu'on avait quelqu'un qui peut-être enfin, puisque vu de droite, c'est la plupart des gens considèrent que c'est la nécessité, on peut le discuter, mais c'est quelqu'un qui était en mesure de faire les réformes si longtemps repoussées. Et donc le sol se dérobe sous les pieds de l'électeur de droite convaincu par Fillon, puisque il n'est pas intègre comme on le pensait, et d'autre part, il n'est pas certain qu'il gagne. Et alors j'allais dire, le dernier point qu'il faut avoir en tête et qui du coup rend le questionnement que nous avons ce soir un peu dépourvu d'intérêt du point de vue de la droite et de Fillon, c'est que l'image de Fillon est tellement dégradée sur un terrain qui était tellement important pour qu'il soit crédible pour mettre en œuvre les réformes, que quand bien même il pourrait se présenter et quand bien même il serait élu, on peut se poser la question de savoir s'il pourrait réformer. Et du coup, sa candidature est d'un intérêt qui s'effondre complètement. C'est-à-dire que dans le fond, on se dit, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment de savoir s'il sera candidat? Parce que s'il est candidat et qu'il gagne, il ne peut plus faire ce pourquoi je pensais qu'il était le bon candidat. Ça, c'est l'analyse de quelqu'un qui est un supporter de Fillon, si vous voulez, en théorie, hein. Et donc, il y a quelque chose qui, effectivement, a complètement basculé en seulement 10 ou 12 jours. Là, je rejoins Sylvain sur l'incroyable rapidité des basculements auxquels on assiste aujourd'hui.
Ces basculements, Stéphane Robert, est-ce que ce qui pose problème aujourd'hui dans l'électorat de droite et dans les représentants de la droite, c'est justement le fait de découvrir que François Fillon n'est pas le candidat intègre qu'il était, et donc de considérer que moralement et politiquement ça n'est pas tenable, ou bien c'est avant tout de se rendre compte que ce candidat-là qui devait faire gagner la droite pourrait la faire perdre?
Alors, ce candidat-là pourrait la faire perdre, ça c'est un élément important, mais ce que disait Philippe Manière est primordial. Ce message d'intégrité, d'honnêteté, c'était pas nouveau chez François Fillon, hein. Ça fait plusieurs années, enfin, ça fait de tout temps, il a toujours répété ça. L'intégrité, l'honnêteté pour diriger la France, il faut être intègre, il faut être honnête, il a répété. Et alors, souvenez-vous quand même, son premier meeting de campagne, à la fin du mois d'août, pour la primaire, là. Son message, qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, avec moi, c'en est fini des petites magouilles à la Sarkozy. Avec moi, vous aurez quelqu'un d'honnête, d'intègre. Et pourquoi ça prend une telle ampleur, cette affaire-là? C'est parce que il a ce message-là et que son programme, qui est un programme rude, qui est un programme difficile à accepter pour beaucoup de Français, il ne vaut qu'avec cette promesse d'intégrité et d'honnêteté. C'est pour ça que ça prend une ampleur comme ça. Et c'est pour ça qu'il est complètement démoli politiquement au niveau du message qu'il porte jusqu'ici.
Quitte à ne pas être intègre, autant ne pas se donner l'apparence de l'intégrité. Anastasia Colosimo, ça pourrait être ça, une des leçons de ce qui se passe en ce moment?
Oui, non, c'est certain que cette question-là, elle est importante. C'est sûr que comme il a présenté son intégrité comme un gage absolu aussi des réformes qu'il allait mettre en place, la gueule de bois est un peu difficile. Sur l'ampleur qu'a pris l'affaire, je dirais que, alors peut-être que c'est parce que je suis un peu jeune, mais j'étais déjà extrêmement choquée par l'affaire Cahuzac et par le déchaînement de violence qu'il y avait dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors c'est évident que si on a un problème de ce type-là dans une démocratie, une affaire de corruption ou quoi que ce soit d'autre, il faut... quand même, la mise en examen était le soir même de la sortie du Canard enchaîné, ça je n'ai jamais vu ça. Le matin, le Canard enchaîné sortait, la mise en examen était le soir même. Bon, mais passons.
Il n'y a pas eu de mise en examen encore.
Non, mais il y a eu l'ouverture dans l'enquête préliminaire. Le soir même.
Oui, mais
s'il y avait eu mise en examen, il ne serait plus candidat puisqu'il a dit qu'il ne
voulait pas encore. Le soir même, il y avait ouverture dans l'enquête préliminaire.
C'est que la justice a
été rapide. Elle a été plus que rapide quand même. Mais donc ça aussi, je pense que ça fait évidemment enfler très rapidement toute l'affaire. Mais sur l'ampleur, je dirais qu'il y a une violence que je trouve extraordinaire dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et en plus, alors moi j'ai remarqué ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un côté en plus sur Pénélope Fillon qui est un peu l'autrichienne, la galloise. Et il rappelle tout le temps, c'est la galloise. Et on a en plus ces interviews où elle parle avec ce petit accent anglais. Et vraiment, je trouve que le déchaînement de violence est absolument phénoménal.
À propos de ce qui se passe avec François Fillon et de ce qui aurait pu se passer peut-être à propos d'un d'autres candidats qui, c'est pas le premier, être pris en délit de non-intégrité. Il y avait un reportage que je trouve intéressant aujourd'hui dans le Parisien Magazine où ils sont allés interviewer des gens à Charleville-Mézières puisque François Fillon était dans les Ardennes hier et il y a une des habitantes qui dit au moins avec Sarkozy, on savait qu'il y avait des magouilles. Mais là, Fillon, c'est carrément de l'enrichissement personnel de la part d'un bon catholique, ça m'a tout de même étonné. Est-ce qu'on peut se dire que avec un autre candidat comme Nicolas Sarkozy, c'est une affaire qui aurait peut-être pris une ampleur totalement différente et en tout cas moindre, Sylvain Bourmeau?
Oui, sauf que c'est pas un hasard si c'était pas Nicolas Sarkozy le candidat. C'est peut-être lié à ce que à la question que vous posez, c'est-à-dire que justement la primaire a permis à un nombre assez important, 4 millions de personnes, de choisir un candidat en faisant jouer ce critère de l'intégrité. Alors manque de peau, il a pas bien joué ce critère, mais en tous les cas, il était dans l'intention de vote, comme le rappelait Philippe Manière. C'est l'une des raisons du succès de Fillon. Donc, il y a cette question. Alors, je voulais revenir aussi sur la question pourquoi c'est allé si vite. Certes, la justice est allée vite, mais je pense que si, imaginez un instant que François Fillon, qu'on découvre tous ces faits, mais qu'on soit il y a un an, par exemple. Je pense que les choses auraient été beaucoup plus lentement. Là, pourquoi? On a un deadline qui est celui du 22 mars, de la déclaration, des déclarations officielles. 17 mars.
Ça commence le 23 février, ça c'est...
Voilà. Et là, si vous voulez, c'est ça qui fait que les choses sont accélérées, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à perdre pour un camp politique, pour la droite, pour un parti, si ce camp s'aperçoit que son candidat ne va pas tenir la route. Donc ça contribue beaucoup. Et il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que je crois qu'il n'y a pas une affaire Fillon. On a l'impression qu'il y a une affaire Fillon parce qu'on regarde tout au prisme de Pénélope Fillon et qui est finalement présente dans deux affaires. Il y a une affaire qui relève du fonctionnement de la PME familiale d'un député qui, comme beaucoup de députés, choisit d'employer son conjoint ou sa conjointe sur les fonds alloués à un député. Alors après, la question de savoir si ce conjoint ou cette conjointe travaille réellement. Bon, là, les gens vont se dire, les électeurs, ben, au fond, c'est de l'utilisation abusive. C'est-à-dire que c'est comme si un député décidait de s'augmenter. Enfin, comme s'il décidait, au fond, que cet argent lui appartenait pour faire tourner sa petite entreprise politique et, au fond, qu'il utilise ses fonds comme bon lui semble, des frais de représentation, etc. Bon. Mais l'histoire de la revue des deux mondes, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Certes, ça concerne la même personne, mais là, on ne peut pas manquer de se demander quelle est la contrepartie. C'est pas du tout pareil. Pourquoi on paye quelqu'un 100 000 euros pour faire deux comptes rendus de lecture? Y a quelque chose qui ne va pas. La justice va nous expliquer ce qui ne va pas. Là, on a affaire à une autre affaire qui n'est pas, qui ne relève pas de la même catégorie. Je ne dis pas que l'une est nécessairement plus grave que l'autre. Les deux sont graves, les deux accusations sont graves. On verra si elles tiennent. Mais je crois qu'il faut distinguer les deux parce que, au fond, il y a le côté un peu, on fait de la politique à l'ancienne, on emploie, on utilise. Ok, c'est une chose, mais l'autre affaire me paraît beaucoup plus désastreuse potentiellement, parce que là, il y a potentiellement, c'est ça dont, qu'on soupçonne, c'est qu'il y a une forme de corruption quelque part dans cette histoire.
J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement d'accord avec ça, Philippe Manière.
Non, enfin si, il y a des choses amusantes, c'est que le propriétaire de la revue en question était un fervent supporter de Nicolas Sarkozy en 2007, donc voilà, il y a des évolutions. Là maintenant, il est devenu filloniste. Alors,
Allait beaucoup voir des spectacles avec François Hollande aussi.
Mais ça fait aussi partie. Alors bon, en même temps, faut regarder le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que les gens sont pas irréprochables, les gens ont des intérêts, ils les défendent. Et après tout, si on pense que l'intérêt du pays, de son entreprise, qui peuvent être alignés.
C'est de faire un chèque
de 100 000 euros. Non, pas du tout.
Mais non, mais c'est pas ça, terminer. Surtout, c'est que...
Laissez-moi terminer. C'est l'élection de tel ou tel. Pourquoi ne pas accepter que quelqu'un contribue au financement, par exemple, de sa campagne, par les voies légales. Je vous dis, par les voies légales. Non, moi, je parle de la revue des deux mondes. C'est-à-dire que s'il y avait la possibilité de donner de l'argent à quelqu'un et qu'on dise, cette personne, c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, je ne dis pas que c'est irréprochable, mais c'est une possibilité. On dit, on laisse les gens donner eux-mêmes ou par leur entreprise de l'argent au candidat qui leur paraît le meilleur, alors au regard de toutes sortes de critères, l'intérêt du pays, l'intérêt de mon business, mon intérêt personnel, voilà. Mais en France, c'est pas comme ça. Et en France, donc, il y a un plafond. Et du coup, quand on veut aller au-delà du plafond, naturellement, c'est hors la loi, hein, ben on est obligé de recourir à ce genre de petites magouilles qui, effectivement, probablement...
Est-ce que pour vous, Philippe Manière, ça veut dire que vous considérez qu'on peut se poser la question d'un sous-financement de la vie politique et qu'il y a besoin d'aller chercher des financements ailleurs?
Moi, j'ai toujours pensé que le financement public de la vie politique n'était pas une très bonne idée, une moins bonne idée que ce qu'on s'imagine. D'une part, parce qu'il ne faut pas rêver, quand les gens sont malhonnêtes, vous leur donnez le financement public, ça ne les dispense pas d'aller chercher sur le marché privé des financements malhonnêtes. Et d'autre part, parce que je crois que ça donne l'impression qu'avec des sommes qui, au bout du compte, sont assez limitées, on peut faire une campagne. C'est pas vrai. Il y a toujours des envies d'aller plus loin. Et donc, on n'a pas purgé la question parce qu'on la purgera jamais, parce que l'homme est foncièrement tenté par la malhonnêteté et qu'on ne peut pas imaginer que juste parce qu'il y a des textes et des financements, il n'y a plus personne qui triche. Donc moi, j'aimerais mieux que les choses soient claires et qu'on dise chacun donne ce qu'il veut, comme il veut, en toute clarté, en toute transparence.
Ce n'est qu'une hypothèse, j'en ferai une autre plus tard.
Je pense qu'il y a justement deux questions qui sont intéressantes. La première, c'est cette enveloppe qui est à la discrétion du parlementaire. Donc là, il y a aussi des débats de fond qu'il faut avoir. C'est-à-dire, quelle est cette enveloppe? Comment, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre comment cette enveloppe est dépensée? Aussi, sur la place d'assistant parlementaire, qui est quand même parfois aussi peut être un travail assez précaire et assez prenant. Et il y a un autre débat qui est celui du financement de la vie politique. Et ici, c'est la France. Donc, les personnes morales ne peuvent pas financer la politique. C'est là où se situe toute la difficulté juridique. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie du système américain où ça devient en fait des campagnes de lobby et c'est à celui qui sort le plus d'argent?
Mais en fait, elles peuvent parfaitement financer les campagnes, les personnes morales, à hauteur de 7500 euros.
7500 euros, c'est très peu.
On ne peut que s'en réjouir. L'hypothèse que fait Philippe Manière, ce serait donc que quelqu'un donne de l'argent à un responsable politique pour l'aider à financer son activité politique dans l'espoir que cette personne soit élue un jour.
parce que il défend ses idées ou parce que ça peut être dans ses intérêts économiques. Mais on peut faire l'hypothèse inverse.
Je n'ai pas dit que ça me plaisait. Non, non, je dis que c'est une représentation acceptable.
C'est une hypothèse, mais on peut faire.
Au moins, c'est transparent et on sait qui donne à qui. Voilà.
On peut faire l'hypothèse inverse.
Il n'y a pas de triche.
On peut faire l'hypothèse inverse que cette somme ne vient pas financer une activité en espérant quelque chose, mais que cette somme vienne récompenser une décision politique qui a été prise. C'est une hypothèse tout à fait valable.
Ou même que ce soit un investissement en vue d'une décision politique favorable. On peut tout dire. Oui,
ou
bien
une
sûr.
Récompense. Oui, non, mais tout ça est possible. C'est la justice qui le dira.
Donc comment... on voit bien les risques qui peut y avoir. Je précise d'ailleurs, et je vous renvoie à l'écoute de notre émission de mardi prochain, où on va justement poser la question, la vie politique est-elle sous-financée? Mais puisqu'on en est au rang des hypothèses, je reviens vers vous Stéphane Robert, à propos de ce qui pourrait se passer désormais, les fameux plans B, ça nous renvoie à 2005, on parlait beaucoup du plan B à l'époque, c'était pour l'Europe, cette fois c'est pour la candidature à droite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment l'idée que de toute manière ce sera un autre candidat? Et quand on entend par exemple sortir des noms, alors moi qui me semble totalement délirant, Gérard Larcher par exemple, qui pourrait se retrouver candidat de la droite à la présidentielle.
Alors il faut peut-être revenir juste une petite seconde sur le calendrier qui s'accélère là, mais c'est que l'horloge tourne. Avec, à partir du 23 février, ce dépôt des parrainages auprès du Conseil constitutionnel. L'horloge tourne.
Enfin, pour les Républicains, les parrainages, ils n'auront aucun problème. En 24 heures, c'est plié.
Même pour faire campagne après.
Vous avez un candidat, puis du jour au lendemain, il faut changer. Vous parrainez Fillon, puis après, vous parrainez qui? Celui qu'on va présenter. Et, c'est compliqué, parce que là, les règles ont changé en plus. Hein, vous ne récoltez plus les parrainages auprès des maires, c'est eux qui les envoient au Conseil constitutionnel. Il faut vérifier tout ça, c'est plus compliqué. Bon, mais en tout cas, l'horloge tourne, et plus on approche de cette échéance-là, plus il est difficile de changer de candidat. Pourquoi François Fillon, il fixe 15 jours, il dit 15 jours? C'est parce que...
Après, ce sera trop tard pour changer.
Mais c'est ça. On ne peut plus changer après. C'est fini. C'est que... Et voilà. Donc, le plan B... Et le plan B, le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Imaginez que cette primaire, ces 4,5 millions de personnes qui ont légitimé quelqu'un. Quelle légitimité pour un remplaçant? Rien. Personne. Juppé, éventuellement, a une petite légitimité. C'est pour ça que vous entendez cet appel à Juppé, parce qu'il est finaliste, et puis finalement, c'est quelqu'un qui a une certaine posture, et puis, il a cette petite légitimité, mais
Juppé... Ça serait lié à quoi?
Petite légitimité, quand même, le fait d'avoir été au second tour. Imaginez,
Importante que celle de François Fillon, il a perdu quand même. Et puis, il est très fatigué, moralement.
Imaginez, quatre figures, François Fillon décède, plutôt que cette affaire, il décède. Bon, il ne peut pas être candidat. Je pense que, assez naturellement, Alain Juppé aurait été désigné candidat, probablement. Oui. Parce qu'il arrivait en second dans la liste définie par les électeurs.
Là, il y a une petite difficulté, c'est que si c'est Alain Juppé qui remplace François Fillon parce que François Fillon est soupçonné d'avoir fait des choses qui ne sont pas convenables, ça ne peut pas ne pas faire écho au passé d'Alain Juppé, qui lui a été condamné. Alors on peut dire, oui, mais comme il a purgé, etc., il a payé très bien. Moi, j'entends cet argument. Ouais. Mais enfin, il n'empêche que, vous imaginez, pour faire simple et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, les humoristes, François Fillon ayant été soupçonné d'avoir fait quelque chose de pas bien, est remplacé par Alain Juppé, dont on est sûr qu'il
aura le droit de se présenter en 2053.
C'est assez surréaliste comme situation.
À ce sujet, je voudrais juste citer un extrait de l'excellent éditorial du Monde de Philippe Ridé dans le Monde d'hier, qui écrit « La primaire de droite ressemble à ce stade au classement général du Tour de France avant le résultat des tests antidopage, puisqu'on sait que les dernières éditions, il a fallu aller chercher profondément dans le classement pour savoir qui avait gagné le Tour. » Stéphane
Alors,
Robert.
Pourquoi je dis petite légitimité? Parce que il a perdu quand même cette primaire, même s'il était en finale. Donc il conserve une légitimité, mais elle est moindre que celle de son
Fillon. Il a perdu sèchement quand même.
Oui, il a perdu sèchement. Et deuxièmement, si vous mettez Juppé, on part avec quel programme? On a voté pour le programme Fillon, on repart avec le programme Juppé. Ça devient très compliqué. Gérard Larcher, petite légitimité, toute petite aussi, parce qu'il est président du Sénat, deuxième personnage de l'État, susceptible de remplacer le président de la République en exercice s'il est empêché. Voilà d'où l'attire cette petite légitimité-là. Mais les autres, Baroin, Wauquiez, pourquoi pas Copé dans ces conditions?
Une question que vous...
Ou Poisson, cible les femmes, ou Poisson. Ou voilà,
qui serait le plan G d'après le décompte de la primaire. Voilà, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Ils étaient 7 candidats. Et il est arrivé le dernier. Pourquoi question
je sais pas,
que
je ne sais pas si vous avez vu ce dessin humoristique. Je crois que j'ai vu dans l'Opinion ce matin. Je ne suis pas sûr.
Oui.
C'est le plan B. Alors tout le monde dit B comme il trouve une résonance entre B et son nom. Et il y a Nicolas Sarkozy qui saute. B, Bismuth.
Voilà,
on revient sur le sujet finalement de cet écho à peu près inévitable au passé des uns et des autres.
Pourquoi est-ce que cette affaire qui atteint vraiment très durement François Fillon ne semble pas atteindre, alors c'est pas la même affaire, mais Marine Le Pen? Marine Le Pen. Le Parlement européen lui demande le remboursement de 340 000 euros pour avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer, c'est ce que considère le Parlement européen, des collaborateurs qui ne faisaient strictement rien au Parlement européen. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen, qui a elle aussi un discours sur l'intégrité, sur le fait que bah, les politiques sont tous pourris et qu'il faut justement davantage d'honnêteté, ne pas avoir les mains sales pour exercer le pouvoir, pourquoi est-ce que elle, semble-t-il, ça ne l'atteint pas dans les sondages et parmi ses sympathisants? Qui veut répondre? Anastasia Colosimo, c'est à vous que je pose cette question extrêmement compliquée.
Elle est très très compliquée. Déjà, je pense que il y a deux choses. Il y a le fait que Fillon, pour l'instant, monopolise les médias et c'est un peu sur le thème du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir deux boucs émissaires, on peut pas avoir deux scandales énormes en même temps. Donc là, tout le monde est focalisé sur un scandale et en plus, ce scandale est d'autant plus fort, et c'est ce qu'on a dit déjà, que effectivement, c'est l'intégrité qui se présentait, et là, cette intégrité semble désintégrée par les révélations des journaux. Donc je vois ça comme ça. Ensuite, je pense aussi que ça touche peut-être moins l'électorat du Front National, qui en fait est moins dans ces questions-là et qui est dans une colère qui en fait se passe un peu de ces débats-là. Et en plus, qui à mon avis est beaucoup plus les médias, surtout, oui, et qui nous croit beaucoup moins les médias sur ce genre d'accusations.
Non, c'est ça. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle capitalise. Enfin, l'électorat de Marine Le Pen est généralement, enfin, pardon, je ne veux pas le dire de manière désobligeante, mais il y a une forme de paranoïa. C'est-à-dire, l'idée, c'est tous pourris, pour faire simple. Et donc, on n'est jamais surpris de voir qu'il y a de la malhonnêteté quelque part quand on part du principe que tout le monde est pourri.
Oui, mais attendez, j'ai entendu un certain nombre de témoignages.
Du point de vue des électeurs de Fillon, c'est qu'ils tombent de haut. Oui. Alors que l'électeur moyen du Front National, il voit bien que tout le monde triche. Alors, deuxième chose.
Mais petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire, Philippe Magnard. Oui. Alors, ça n'avait évidemment pas valeur de sondage, encore moins d'enquête scientifique, mais il y a beaucoup de témoignages que j'ai entendus depuis le début de cette affaire Fillon, d'électeurs disant. Eh ben moi, je suis extrêmement déçu et je vais aller voter Marine Le Pen.
Mais bien
donc
sûr.
C'est bien que justement bien cette question de l'intégrité, elle est passée.
C'est-à-dire, dans les inconvénients de l'élimination éventuelle de François Fillon, il y a qu'on perd le bénéfice qu'on avait, je crois, collectivement perçu de la candidature Fillon, c'est qu'il récupérait un certain nombre de points sur Marine
même
Le Pen. Alors là, non seulement il ne les récupérera pas, mais on risque d'avoir des gens qui disent « Ah ben d'accord, alors même mon candidat que je croyais intégré comme ça, finalement, les gars du Front National n'ont peut-être pas tort. » Alors juste un dernier point sur cette histoire de Marine Le Pen et pourquoi elle ne paye pas le même prix que les autres, il y a aussi le fait que ça se passe à l'Union Européenne. Et donc vous avez l'idée, notre brave candidat patriote, on lui fait des problèmes, c'est plutocrates apatrides, voire ces Allemands, puisque... Elle aimait beaucoup, vous savez, sur la petite musique, ce sont les règles allemandes qui s'appliquent à Bruxelles et à Strasbourg, ce qui est excellent, évidemment, du point de vue tactique. Donc, je suis la victime parce que je suis Jeanne d'Arc.
Sauf qu'il y a aussi...
Évidemment, ça ne vole pas un instant.
Sauf qu'il y a aussi des enquêtes sur les financements irréguliers de toutes les campagnes du Front National depuis 2012, comme le rappelait très bien l'éditorial non signé, l'éditorial qui engage le journal Le Monde ce soir à la une. Le problème, c'est qu'il y a peu d'électeurs du Front National qui lisent Le Monde, malheureusement. Je crois qu'il serait très responsable de la part des autres médias, des médias vraiment de masse, de s'attacher à un certain équilibre, comme le fait Le Monde ce soir, en disant il n'y a pas de raison de ne s'intéresser qu'à François Fillon, qui est une affaire très grave. Il faut rappeler que Marine Le Pen aurait dû rembourser cette somme de 300 000 euros. Il faut rappeler qu'une information judiciaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée contre plusieurs parlementaires européens du Front National. L'autre raison pour laquelle peut-être on s'attache moins au cas du Front National, c'est qu'au fond, toutes ces histoires concernant le Front National, c'est loin d'être nouveau. Les histoires d'héritage, les histoires de financement russe, les histoires... Je veux dire, on sait que le Front National est quand même trempé dans beaucoup d'histoires judiciaires depuis très longtemps. Donc il y a peut-être une forme de lassitude, mais je crois qu'il serait bon néanmoins de ne pas laisser toutes les lumières sur François Fillon et d'en garder un petit peu pour Marine Le Pen aussi.
Stéphane Robert, ensuite Anastasia Colosimo.
Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent expliquer en partie. Il y a d'une part le fait que une grande partie de l'électorat Front National reste un électorat qui veut renverser la table. On vote pas pour Marine Le Pen, on vote pour bazarder le système. C'est un vote anti-système pour une grande part de l'électorat. Et donc finalement, les affaires, c'est pas très important en soi. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un électorat où les théories du complot prennent. énormément. Vous voyez sur les réseaux sociaux, l'extrême droite et le Front National notamment sont très présents sur les réseaux sociaux, et les théories du complot fonctionnent. Et on considère que ces affaires judiciaires sont des choses qui sont montées pour nuire au Front National, et donc on n'y croit pas. Ça fait deux explications à m'enlever qui expliquent en partie.
Mais les autres sont vraiment malhonnêtes, mais quand on dit que les candidats du Front sont malhonnêtes, c'est parce qu'on veut les démolir.
Sauf que là, c'est pas monté, parce que c'est le Parlement européen lui-même qui s'estime lésé dans cette affaire.
Et je pense que la lassitude, elle est d'ailleurs beaucoup plus généralisée, parce qu'il y a eu donc en même temps l'affaire Fillon, ensuite il y a eu l'affaire Macron quand même aussi, il y a eu un tas d'articles sur les 120 000 euros dépensés à Bercy. On a eu ensuite...
Révélé dans un livre d'un de nos journalistes de France Culture, Frédéric Seyss.
Et en même temps, on a ressorti donc l'argent du Front National, c'est-à-dire que moi je comprends aussi qu'à un moment, l'électeur qui se dit, il faut que les choses changent, il faut qu'il y ait un vrai débat sur le fond, et en plus il y a des débats aujourd'hui qui sont intéressants, économiques, sociétaux, etc., qu'il y ait une lassitude profonde.
Bah attendez, j'ai une idée pour vous, Anastasia Colosimo. C'est peut-être du côté de la gauche qu'on va trouver un paysage beaucoup plus apaisé, dégagé, serein. La gauche, aujourd'hui, parce que c'est vrai que Benoît Hamon, rappelons-le quand même, ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'il a été désigné pour être le candidat, au moins des socialistes, à la présidentielle. Il rencontrait hier, pendant une heure à peu près, à l'Élysée, François Hollande. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. On en a sorti un peu, voilà, on avait l'impression que c'était une rencontre diplomatique presque entre la France et la Russie, par exemple, pour voir le niveau de contenu des commentaires qui ont été faits ensuite. Alors, je ne sais pas, voilà, qui était la Russie, qui était la France. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche va beaucoup mieux? Certes, il n'y a pas de scandale tel qu'il peut y en avoir à droite, Sylvain Bourmeau, mais le paysage n'est pas franchement éclairci.
La gauche, en tout cas, Benoît Hamon, oui, incontestablement. Il suffit de regarder les quelques enquêtes d'opinion qui valent ce qu'elles valent, mais qui produisent des effets plus que jamais dans cette campagne. Les sondages produisent des effets absolument incroyables. C'est sans doute ces enquêtes qui vont faire que François Fillon ne sera plus dans quelques heures probablement le candidat des Républicains. En tout cas, c'est une hypothèse forte. À gauche, ils produisent des effets, on l'a vu, c'est-à-dire que la victoire de Hamon, qui n'était pas forcément attendue par tous les gens qui répondaient aux enquêtes avant la fin de la primaire, finalement aura permis de faire bouger les choses et aura permis à Benoît Hamon de creuser, semble-t-il, l'écart de façon très rapide et significative sur Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la première étape. En creusant l'écart et en siphonnant des intentions de vote, si on peut parler comme ça, à Jean-Luc Mélenchon, et en se rapprochant d'Emmanuel Macron, puisque la dernière enquête de Paris Match le donne à 2 points de Macron, qui lui-même est dans les mêmes eaux que Fillon, eh bien, Hamon se trouve en situation de venir percer la bulle Macron, telle est du moins l'hypothèse qu'il fait.
Et faire l'hypothèse que c'est suite à sa désignation qui a un effet porteur.
C'est cette désignation qui lui a permis de creuser l'écart avec Mélenchon. C'est un jeu de vases communicants. Et Hamon acquérant une crédibilité, c'est-à-dire étant désormais perçu comme un candidat qui, après tout, peut prétendre à figurer au deuxième tour, compte tenu en plus de ce qui arrive à François Fillon, qui vient évidemment renforcer cette hypothèse-là, je ne serais pas surpris de voir que le renforcement de Hamon, la possibilité de se projeter au deuxième tour pour lui, de la part d'un certain nombre d'électeurs, vienne définitivement crever cette bulle médiatique, parce que c'est comme ça qu'elle était interprétée par beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles elle semblait durer plus que pour Jean-Jacques Chirivanche-Kreber.
Sylvain Bourmeau, renforcement de Benoît Hamon, avec un certain nombre de députés aujourd'hui qui prennent position en disant « nous, on ne pourra pas soutenir Benoît Hamon ». Quand on interroge les membres du gouvernement de Bernard Cazeneuve, manifestement, ils ne seront pas très nombreux à participer à son investiture.
Mais ça va le renforcer, ça, encore.
Ce week-end. Et puis, il y a quand même eu à nouveau des ralliements pour Emmanuel Macron. Donc,
je serais plutôt partante pour dire que c'est quand même un sacré bordel.
C'est le côté socialiste, tout de suite, la motion de synthèse.
Ça se clarifie, pourtant, ça se clarifie.
Non, je trouve que ça se clarifie pas beaucoup. Enfin, si on parle de la gauche de manière générale, il y a Jadot, Mélenchon, Hamon, Macron, et effectivement, à la fois on demande à Hamon de soutenir le quinquennat de Hollande, en même temps, Hollande est plus ou moins en train de rallier Macron dans un couloir sombre. Tout le monde joue un double jeu. Les Valls se décrochent. Enfin, je trouve que ça donne pas non plus.
Ça va être assez dur de vendre aux gens l'idée que tout ça, c'est au nom des idées et des principes exclusivement. On voit bien effectivement qu'il y a des jeux d'appareil Alors c'est inévitable. C'est-à-dire que la politique, c'est entre, enfin, de manière inextricable, des principes et des petits arrangements de cuisine. C'est inévitable. Là, il y a quand même quelque chose qui me semble assez intéressant au titre des investitures. C'est-à-dire que beaucoup de députés qui se posent la question de savoir s'ils doivent rester au PS, aller soutenir Macron, etc. Alors, ils le font certainement à partir de ce que leur dicte leur conscience, mais aussi beaucoup à partir de la probabilité qu'ils ont d'être élus ou d'être réélus, plutôt, selon qu'ils vont ici ou là. Et ça, ça va évidemment faire que, même s'il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter Hamon parce que Hamon ne leur fait pas vraiment, enfin, leur semble pas être un candidat très raisonnable hein, dans la partie, disons, centre-gauche du PS, bah, ces gens-là, ils savent bien que.
Ils se rappellent qu'ils ont des électeurs.
Ils se rappellent qu'ils ont des électeurs. Et puis, c'est mais pas seulement. Oui, il y a les électeurs. Mais oui, je voyais l'autre jour, dans plusieurs circonscriptions de la banlieue parisienne, vous avez, Hamon a fait 70, 75, parfois plus, % des voix dans la primaire. Donc, le député qui dirait, moi, je n'écoute que ma conscience, je crois que Hamon, etc. Oui, c'est bien mignon. Mais est-ce que le jour venu, il sera réélu par.
Ceux qui se représentent pas, par le parti. Par exemple, Carrèche, qui ne se représente pas, il ne s'est pas posé de questions. Alors que dans sa circonscription, Hamon a gagné à 80%.
Voilà, Carrèche, qui est typiquement quelqu'un qui est vraiment au centre gauche, au centre droit du parti, et qu'il est de bonne foi et qui parle en conscience quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec les idées de Hamon, ben il se trouve qu'il ne peut le faire d'un point de vue technique que parce qu'effectivement il n'a pas besoin des voix dans sa circonscription. Sinon, compte tenu
il n'a pas besoin de voix puisqu'il se représente pas.
Donc il peut se permettre d'être cohérent avec ses idées, quoi. C'est ça. En gros.
C'est un luxe que peu de gens en fait ont.
Stéphane Robert.
Je suis assez d'accord avec Anastasia Colosimo, c'est un sacré bazar. mais il faut le dire, hein, on avait trois châteaux de cartes, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui quatre châteaux de cartes. Mélenchon, château de cartes, on le voit bien, il est en train de s'écrouler parce que Benoît Hamon lui grignote. Et puis bon, c'est un vote populiste d'extrême gauche qui est très fort. Hein,
comme il y a 5 ans d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Oui, c'est exactement le même processus, avec à peu près le même timing.
Benoît Hamon, comme vous le disiez, il est en train de surfer sur une vague, ça peut retomber, ça va vraisemblablement un peu retomber derrière. Et puis, il faut bien voir qu'enfin, ce que retiennent beaucoup de gens de sa campagne, il a fait une très bonne campagne, ça c'est vrai, hein, mais c'est 400 milliards, il faut trouver 400 milliards pour financer son revenu universel. Alors, il a dit 45 milliards. Mais beaucoup, ce que retiennent beaucoup de gens, c'est 400 milliards de plus.
Sauf que c'est pas du tout ce qu'il a annoncé, puisqu'il a annoncé par phase.
Vous imaginez qu'il y a 50% de Français qui vont voter pour ça? Je crois pas, moi. Alors qu'il est. Benoît Hamon représente un petit peu.
Ils vont pas voter par ça parce que c'est pas ça qui est proposé par Benoît Hamon. Donc,
c'est ce qui est retenu, en quelque sorte.
Oui, mais c'est pas la vérité. Attention.
Le problème, si vous voulez, c'est que Benoît Hamon représente un petit peu le François Hollande d'avant l'élection de 2012. C'est un petit peu les promesses de la gauche qui n'ont pas été tenues par François Hollande. Et donc, on repartirait avec un candidat qui fait encore des promesses. On a Emmanuel Macron qui, vous le disiez aussi, n'a pas véritablement de programme. C'est un peu fragile, ce qu'il représente pour le moment en tout cas. Il a beaucoup de ralliements, il séduit beaucoup, mais il n'y a pas de programme. Et vous avez maintenant un François Fillon extrêmement fragilisé. Vous avez quatre châteaux de cartes là, et vous avez un roc, Marine Le Pen. Attention.
Et j'ajouterais aussi sur, justement, on parlait souvent, et il y a ce débat sur la 6e République et sur la fin de la 5e République. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de candidats, et en tout cas parmi les candidats qui sont aujourd'hui au second tour selon les sondages, c'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron, n'auront pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc comment est-ce qu'ils vont gouverner?
Ça, on ne sait pas. On verra ce qui se passera lors des législatives si l'un ou l'autre est élu. Yannick Jadot, qui répond à une interview hier ou avant-hier dans le Monde, et qui dit ceci, alors à propos de la situation politique en général, à droite et à gauche, hein, nous sommes dans une situation totalement inédite dans notre pays de destruction, recomposition politique. Est-ce que vous voyez davantage de destruction que de recomposition, ou inversement, Sylvain Bourmeau?
J'en sais strictement rien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une offre politique qui est en train de rentrer dans les cases, parce que malgré tout, on a un mode de scrutin, on a des appareils qui pèsent, et on va vers une forme de normalisation de tout ça. C'est pour ça que je me permets de parler de bulle à propos de certains candidats. Vous le disiez à propos de Mélenchon, qui s'est effondré de la même façon. On sait comment François Bayrou s'est effondré aussi, parce que voilà, les candidatures sont
tristes. Je trouve que vous enterrez quand même tous très vite.
Mais non,
Jean-Luc Mélenchon,
ce sont des logiques d'appareil, on les connaît par cœur, on a toujours tendance à les minimiser parce qu'on aime bien raconter des histoires quand on fait du journalisme politique. Je pense que là, il y a des forces physiques qui sont liées aux règles du jeu politique qui vont commencer à jouer très très fort et à structurer l'offre.
Il reste combien de semaines avant le premier tour de la présidentielle Stéphane Robert, c'est 80 jours, je crois, c'est ça en tout cas.
Oui, c'est ça, grosso modo.
À peu près. Ouais. En 80 jours, on voit qu'il peut encore se passer énormément de choses. Et vous savez quoi, c'est tant mieux, parce que ça va nous donner l'occasion de continuer à discuter de cette campagne présidentielle absolument folle. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion du Club des idées. Anastasia Colosimo, Philippe Manière, Sylvain Bourmeaux et Stéphane Robert. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également nous suivre et nous envoyer vos commentaires via notre compte Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Élise Leu. Lundi, on se retrouve à 18h20 pour parler diplomatie avec la question suivante : la France a-t-elle intérêt à se fâcher avec les États-Unis ?